9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité. Et le plaisir d'accueillir ce dimanche matin Nora Asval. Bonjour.
Bonjour Samia Messaoudi. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Beurre FM.
Eh bien voilà, un joli bonjour ce dimanche matin. Merci d'être là. Nora Asval, je vais vous présenter dans un instant, mais on va déjà dire aux auditeurs, auditrices qui sont à l'écoute que nous allons parler de Sagesse des femmes du Maghreb. C'est le titre de votre ouvrage. Il vient de paraître aux éditions El Manar. Quelques mots de vous, des mots de votre biographie avant d'entrer dans vos contes, dans vos belles histoires. Nora Asval, vous êtes née à Tousnina sur les hauts plateaux de Tiaret, dans le sud-ouest algérien. Une enfance bercée par les contes populaires que disaient les femmes là-bas. C'est là peut-être que tout a commencé.
Oui.
Et ces histoires vont naître en vous, sans doute, une vocation de conteuse, puisque vous l'êtes aujourd'hui. Mm-hmm. Plus tard, votre vie en France sera cet appel des histoires entendues là-bas, et ce collectage pour ne pas qu'elles disparaissent, puisque c'est de cela qu'il est question aussi dans votre démarche, dans votre travail. Ces allers-retours en Algérie, pour ces collectages, deviendront des livres, comme celui-ci qui vient de paraître, mais ils sont nombreux, puisque vous avez déjà publié les contes du Djebel Amour, les babouches d'Abou Kassem. Ça, c'est pas le collectage, si aussi, les babouches d'Abou Kassem.
Tout ce que j'ai publié est du collectage, sauf les babouches d'Abou Kassem, voilà. Qui a été une commande. Quelqu'un avait commencé à travailler sur le livre et a arrêté. Ouais. Et c'était les éditions du Seuil. Oui. Et ils m'ont demandé de terminer. Et c'est un travail qui m'a pris 6 mois.
Et donc, il y a eu l'Algérie, Conter légendes et bien d'autres encore. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir plusieurs fois. On a déjà parlé justement de cette démarche, de ce travail, parce qu'il s'agit d'un travail, hein, le collectage, rencontrer des femmes ou des hommes d'ailleurs, ici et là, dans l'Algérie qui vous traversez, mais dans le Maghreb en général aussi, et qui vont vous raconter. Quand je dis raconter des histoires, c'est joli de dire raconter des histoires. Parce que c'est de ça qu'il est question dans les contes.
Oui, voilà. c'est la mémoire.
C'est la mémoire.
C'est la mémoire populaire. Hein, c'est la mémoire.
Alors, peut-être on va commencer par ça. Justement, cette mémoire, cette oralité qui devient écriture, ce collectage, comment vous procédez pour collecter encore aujourd'hui? Parce que ça fait plus de 20 ans, 20, 25
oui,
ans
oui, 25
que vous collectez
ans, oui. Plus, j'ai commencé avant, mais depuis 25 ans, depuis de manière 24 ans, depuis l'an 2000, de manière assidue. De manière assidue, c'est-à-dire que pour collecter des contes, il faut connaître les gens, il faut connaître les contes, il faut les rencontrer, il faut montrer patte blanche et ensuite leur expliquer l'objet de la collecte. Que va-t-on faire de ces contes? Vous avez dit que je les ai publiés. Je ne les ai pas tous publiés. J'en ai publié très, très peu par rapport à tout ce que j'ai collecté.
Ça veut dire qu'il y en a beaucoup dans les tiroirs, dans les magnétos, dans les...
Pour la mémoire future, pour pour la littérature orale, pour la mémoire future. Et j'espère qu'un jour, ils sortiront de leurs cassettes, de leurs enregistrements pour enchanter les générations futures.
C'est joli ce que vous dites là, parce qu'il est question de transmission, évidemment, dans les contes. Oui. Hein, parce que les mille et une nuits, les contes de Grimm, les contes d'ici et d'ailleurs, de génération en génération, se transmettent. Et c'est l'écrit qui permet ça, puisque, hélas, est-ce que dans l'oralité, justement, que vous avez rencontré, les anciennes, on va le dire ainsi, ou les anciens qui racontent des histoires d'avant, est-ce que vous avez dit les difficultés à collecter parce qu'il faut avoir confiance, faut que les gens soient en confiance avec vous.
Oui, les gens ne racontent pas une histoire comme ça au premier venu. Vous savez, c'est précieux un conte et sa parole est précieuse, la parole est précieuse. C'est ainsi dans la tradition. C'est pour cela qu'il faut supplier les conteuses pour qu'elles vous disent un conte déjà. Quand elle est de votre famille, en milieu familial, en comptage familial, puisque le conte était un l'éveiller. Acte social, l'éveiller, il fallait supplier le conteur ou la conteuse, et surtout la conteuse qui, elle, a la possibilité de dire les contes de style merveilleux, des contes longs. C'est la conteuse, la gardienne de la parole. Donc il faut déjà la supplier. Mais tous ces contes se disent la nuit, il y a des rituels, il y a des rites, il y a des interdits, on ne peut pas dire le conte le jour. Donc tout cela, il faut le connaître, il faut connaître la langue de la conteuse. Moi j'ai collecté sur les hauts plateaux et ailleurs en expression arabophone, en arabe. Et donc, je peux raconter aussi, puisque j'ai hérité de l'art de conter, mais je n'y suis pour rien. C'est un héritage qui m'est venu comme ça, du ciel. Et je peux raconter en arabe, tout comme je peux raconter en français.
Donc tout le monde ne peut pas conter, si ?
Tout le monde, à mon avis, hein. Tout le monde ne peut pas compter, mais tout le monde peut compter au moins un conte. J'ai rencontré des femmes qui ne connaissaient qu'un seul conte. Mais les grandes conteuses, porteuses de grandes mémoires, elles ont une personnalité bien spécifique. Ce sont des gardiennes, finalement, de la mémoire.
Mais on le sait au village qu'il y a des conteuses. Oui. Elles sont identifiées, c'est en ça que
elles sont identifiées
elles transmettent.
Et elles, dans la tradition, elles ne comptent que dans la famille. Ce n'est pas comme ici en France où on est obligé de raconter à un public divers que l'on ne connaît pas, échanger de lieu, échanger de posture, échanger de costume. C'est très difficile de raconter dans le monde moderne. Et dans la tradition, bon, la conteuse connaît son public, il est familial, elle connaît son répertoire, le public connaît son répertoire et on lui réclame le même conte, les mêmes titres. Elle a un répertoire, beaucoup de contes dans la tête, mais les gens vont préférer La Vache des Orphelins, par exemple, Tefounès et Gougilène. Donc ils vont la demander, ils vont préférer Bzimt al-Fadha, La Blanche-Neige algérienne, ils vont la réclamer. Et elle dit toujours non, je suis fatiguée, non.
Elle se fait désirer.
Oui, elle se fait désirer parce qu'elle veut être sûre. J'ai compris qu'elle veut être certaine que les gens qui sont là, que le public qui est là, aussi bien adulte qu'enfant, parce que c'est mélangé, sont prêts à écouter sa parole parce que sa parole est précieuse. Une conteuse qui confie un conte se confie en même temps et éduque. C'est un acte d'éducation.
C'est un acte d'écoute aussi. Il faut que beaucoup. Le public soit silencieux. Hein. Il n'y a pas de, faut pas qu'il y ait du remue-ménage dans l'assemblée pour être attentif à ce qui va être entendu justement.
Oui, et c'est pour ça qu'on raconte la nuit et elle ne dit qu'un seul conte, qu'elle commence par des devinettes et ensuite elle dit le conte. Et ça apprend l'écoute aux enfants. Vous savez, le conte est précieux en cela aussi. Il apprend l'écoute.
On reviendra sur les contes, c'est pour les enfants et c'est pour les adultes dans une deuxième partie. Je vous propose, si vous le voulez bien, Nora Asval. Oui. Pour nos auditeurs, nos auditrices qui sont à l'écoute, de vous entendre nous raconter un conte que vous avez collecté donc dans ce livre Sagesse des femmes du Maghreb, je le rappelle, qui vient de paraître aux éditions El Manar. Je vous demandais de choisir pour cette émission ce dimanche matin 2 à 3 contes courts et longs, un peu plus longs, pour qu'on ait l'attention de l'écoute.
Dans ce répertoire Sagesse des femmes du Maghreb, les contes sont assez courts. Et chaque conte va nous parler d'un sujet, chaque conte est un exemple, chaque conte est édifiant. Et bien évidemment, vous l'avez compris, il s'agit des femmes, je pense qu'on en parlera après.
Qui sont des héroïnes, elles sont
de leur sagesse.
Le central
oui.
Des femmes.
C'est la sagesse des femmes. Et on parlera, je pense, tout à l'heure de la sagesse bien qui sûr. Nécessite une grande patience. J'aime beaucoup ce conte, Les peaux de gerboise, et je me souviens du jour où je l'ai collecté. C'était début 2023 à Tousnina, là où je suis née. Bien que son mari fût avare, Zahra cultivait patience et sourire. Elle prenait ce qui venait et jamais rien ne reprochait. Ce mari, commerçant de son état, détenait la clé du cellier et rationnait son épouse. Avant de quitter la maison, il puisait dans les réserves juste une petite portion de chaque aliment qu'il estimait suffisante pour la journée. Un bol de semoule, 2 cuillerées de sucre et de café, 1 fond de tasse d'huile, 1 petit bout de beurre. Et au lieu d'acheter de la viande chez le boucher ou de sacrifier un mouton, il négociait auprès des enfants des paysans une gerboise chassée dans les champs. Pour ceux qui viendraient à l'ignorer, la gerboise dépasse d'un pouce la souris. En dépit de l'avarice de son mari, la femme clairvoyante réalisait secrètement ses propres provisions. Elle travaillait les peaux de gerboise de la même manière qu'une toison de mouton et en confectionnait des petites musettes. Dans chaque musette, elle déversait une partie de sa ration journalière. Peu à peu, elle cumula des musettes de semoule, des musettes de café et de sucre, des musettes de beurre. Et le temps passa. Un jour, son mari fit faillite et le cellier se vida. Le couple avait faim et même l'évocation d'une gerboise devint souvenir de riches agapes. Alors le mari cherchait du travail et multipliait les interventions. Et à ce moment-là, un homme frappa à sa porte. Cette visite mit en émoi le mari qui finit pourtant par désespérer. L'étranger venait lui proposer la création d'un commerce en association avec lui. Comment gagner sa confiance sans les rudiments de l'hospitalité ? Lui servir un café d'emblée est la première règle. Ensuite, il faudrait l'inviter à déjeuner. L'homme pâlit et ne sachant vers qui se tourner, il courut dans la cuisine et dit à sa femme d'une voix étranglée « Épouse bien-aimée, pourras-tu me sauver ?» Ah, humiliation et misère. Fais quelque chose, ma femme. La femme sourit et le rassura. Cesse de te tourmenter et garde ta dignité. Rejoins ton hôte. Le café va être prêt et le repas de midi suivra. L'homme, rassuré par le ton confiant de son épouse, rejoignit son hôte. Pendant ce temps, la femme sortit de son coffre les musettes et épuisa de quoi préparer café et repas. L'invité se régala et l'association fut scellée. Une fois seul avec sa femme, le mari la questionna. « Est-ce la voisine qui t'a aidée ? Tu m'as ôté une épine du pied. » La femme répondit. « En effet, ma voisine aurait pu me secourir, mais elle aussi rencontre des difficultés. » « Alors, d'où t'est venue cette nourriture ? » « De mes réserves. »« Réserves ? Avec quoi ? Je te donnais juste de quoi survivre. » La femme lui montra les musettes en peau de gerboise vide et lui expliqua de quelle manière elle avait économisé de chaque aliment. L'homme, honteux, baissa les yeux et dit « Épouse bien-aimée, désormais je te confie les clés et la gestion de toute la maison. C'est toi qui commandes et moi qui obéis. » Une fois le seuil de la maison franchi. La prévoyance est noble, mais l'avarice est odieuse.
Voilà la sagesse qui clôt.
Qui fait que cette femme a guéri son mari.
Bien sûr.
De l'avarice.
De l'avarice.
Grâce à sa sagesse et son calme et sa patience.
Alors justement, on va parler de sagesse dans une deuxième partie de notre émission. Je rappelle que je reçois, merci Nora Asval de cette lecture. J'espère que les auditrices et auditeurs ont été très à l'écoute. Sagesse des femmes du Maghreb, c'est le titre de votre livre. Il vient de paraître aux éditions Almanar et on vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Nora Asval et nous parlons de Sagesse des femmes du Maghreb. C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Almanar. Un livre de contes. Nora Asval, vous l'aurez entendu, est conteuse et a collecté dans le Maghreb, et particulièrement là dans le premier conte qu'on a entendu, sans doute, dans le village où vous êtes née, vous l'avez rappelé, Nora Asval. Alors, ce conte, pour être à la fois dans la précision de justement ce collectage que vous faites, il a été raconté ainsi par la conteuse ?
Il a été raconté ainsi, je n'ai rien changé.
Vous l'avez entendu en arabe ?
Oui, je l'ai entendu en arabe.
Et vous en avez fait la traduction, donc ?
Et j'ai fait la traduction en restant au plus près de l'oralité, voilà, au plus près. Je n'ai rien modifié, je l'ai raconté tel que je l'ai entendu.
Et quand on parle de sagesse dans le conte, c'est la sagesse, c'est quoi ? C'est le pouvoir en même temps, finalement. Elle a un certain pouvoir, cette femme.
Oui, elle a le pouvoir. Toutes les femmes dans ce recueil et toutes ces histoires, on dit que la sagesse est née de la patience. La patience, c'est la voie directe pour avoir la sagesse. Parce que si on ne supporte pas, si on n'est pas patient, on va douter. Et là, être patient, c'est supporter sans fléchir, sans douter, avoir confiance, avoir la foi. Avoir la foi que le dénouement sera bon. C'est la chute qui va être une bénédiction. Ça va bien se terminer pour la femme. La sagesse en arabe, ça s'appelle sbar. Et pour vous dire combien c'est important, le sbar, la patience. Toute chose sur terre a son alter ego. Le ciel, la terre, la lumière, les ténèbres, l'homme, la femme, sauf le sbar. Le sbar est allé, on dit, dans la tradition, dans des images comme ça. Le sbar aurait dit à Dieu, « Oh mon Dieu, tu m'as créé sans... » Chaque chose que tu as créée est créée par père, tant que le ciel, la terre, etc. Sauf moi. Et Dieu aurait répondu, moi, je suis l'unique, et toi, je t'ai créé afin que tu sois mon alter ego. Nte neviri. En arabe, on dit nte neviri. Donc, c'est dire combien la patience, c'est la patience de Job.
Après, la patience, là, elle est aussi représentée par le religieux, puisque dans beaucoup de vos contes, il y a quelque chose de l'ordre du religieux qui s'ajoute, en tout cas, qui est exprimé dans le conte.
Oui, parce que c'est une démarche initiatique, une démarche d'un travail sur soi, d'un travail intérieur. C'est une intériorité. Voilà. Si on ne fait pas cette démarche, si on n'a pas une certaine foi, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Mais n'importe quel religieux peut mener à la sagesse.
Hein. Mais dans le conte de sagesse, quand je disais tout à l'heure que ça pouvait être le pouvoir, il est hors l'espace religieux, il est aussi sociétal. Donc là, on voit que dans le conte que vous nous avez lu, on est aussi dans un rapport homme-femme.
Homme-femme. Ouais. Et ce qui est fabuleux dans ces histoires, c'est que l'homme finit par être, on va dire...
Il se fait petit. Hein.
Oui, il se fait soigner. C'est comme le conte que je viens de lire, de la gerboise, les peaux de gerboise. Sa femme le soigne parce qu'elle a été patiente. Et il finit par faire son mea culpa. Il va demander pardon à la fin. Et j'aime bien parce que ces hommes se montrent intelligents. À la fin, au début, ils sont une sorte d'oppresseurs. Certains enferment leurs femmes. Comme là, le radin, il rationne sa femme. Alors que c'est honteux de rationner une femme. Parce que la femme, c'est elle la sultane, la reine de la maison, du royaume, hein, intérieur. C'est la femme. Et un homme qui garde les clés du cellier, c'est une honte dans la tradition. Parce que la femme, son univers, c'est l'intérieur de la maison. C'est elle qui domine à l'intérieur. C'est elle qui élève les enfants. Là, on est vraiment dans le social. C'est elle, on est dans une société patriarcale qui est algérienne, une société algérienne et musulmane. Et donc, d'où la présence du religieux. Hein. Mais ça aurait pu... Ces contes sont universels. Ils ont
bien
une
sûr.
Dimension complètement
universelle. Dans tous les contes, on retrouve le patriarcat ou l'homme fort, ou l'homme qui...
Et à la fin, c'est toujours la femme qui gagne.
Et après, la femme a gagné. Voilà. On le retrouve d'ailleurs dans un conte que j'ai beaucoup aimé, Le mari assommé. Mais on n'aura pas le temps de le lire. Mais... Parce que tous vos contes abordent justement cette sagesse, effectivement, du point de vue de la femme, effectivement, c'est la sagesse de la femme dans
son silence. Le silence est très important. Ouais. Vous savez, dans les méditations, quand on médite, le silence est nécessaire hein, pour atteindre vraiment la sagesse. Il faut de la patience, et la patience, c'est le silence. Et le silence, attendez, c'est pas du tout. Les femmes ne sont pas muettes.
Elles sont pas soumises, elles sont pas muettes.
Elles sont pas muettes parce que être muet, c'est négatif. Mais être silencieux, il y a une volonté de rester et d'entrer dans son intériorité. Donc le silence ouvre des horizons.
Après, elle va plus être silencieuse. Elle va même arbitrer dans une histoire. On la voit aussi.
Oui, et ben la femme. Comment vous dire, il y a la femme, elle a aussi un pouvoir politique et économique. Voilà, on voit bien économique finalement. Elle a fait ne serait-ce que de ce petit conte là. Et puis il y a beaucoup l'éloge de la main et du savoir-faire des mains. Et la femme, elle se montre très économique puisque de ses mains, elle va tisser des tapis, réaliser des poteries. Et elle va rendre son mari riche. Et dans un conte qui s'appelle « Femme de sultan, femme de mendiant », elle est politique parce qu'on comprend que c'est elle qui a fait le sultan. Et quand il va la chasser, elle fera du mendiant un sultan. Et la femme du mendiant qui va épouser le sultan va faire de lui un mendiant.
Et dans le mari assommé, c'est son mari qui lui dit, parce qu'elle est fatiguée, elle est éreintée de la vie à la maison, à l'intérieur.
Du travail domestique.
Elle travaille domestique, voilà, la vie à l'intérieur. Et son mari lui dit, oh, mais si tu allais dans les champs, etc., oui, tu verrais bien comme c'est plus difficile. Bah, alors, elle lui propose de changer de rôle. Et ça, c'est amusant, très, très amusant, parce que du coup, il se retrouve à la ferme, il ne sait pas traire la vache.
Il manque de patience. Voilà. Oui. Il manque de patience, il va tuer le coq, il va tuer le veau, il va tout détruire. Oui. Et là, on voit bien que l'homme n'a pas de patience. Mmh. Et c'est la femme qui est patiente. Et donc, elle finit par lui administrer des coups de bâton la tête parce qu'il a tout cassé.
Il a tout, oui, il a tout
surtout
cassé.
Le plat qui sert à faire le traditionnel, la gaza. Et quand on voit la symbolique du plat, c'est là, très
c'est
important.
C'est là qu'elle est à bout d'ailleurs, c'est là qu'elle lui administre.
Oui, c'est là où...
Avant, elle lui dit, bon, allez, tu sais pas traire, tu vas aller ailleurs, tu vas aller ramasser les œufs. Ramasser les œufs, il les casse. Et non, j'ai beaucoup aimé ce conte. On va vous écouter, Nora Aswald, dans un second conte, parce que c'est bien de parler à la fois de ce que disent les contes, mais il faut les entendre. Vous avez choisi donc un autre conte.
C'est la dot de... La dot de la princesse. J'aime beaucoup ce conte. Est-ce que vous pouvez me permettre de vous raconter une histoire autour du conte ?
Allez-y.
Ce conte, moi, je l'avais en mémoire, mais je ne savais pas si je l'avais lu ou entendu. Et comme je n'écris jamais ce que j'ai lu, mais seulement ce que j'ai entendu, j'étais en train de le rechercher, en train de me dire, mais comment je vais savoir ? Et ce jour-là, ma sœur, j'étais en Algérie, qui me dit, j'ai une de mes amies qui vient de Tizi Ouzou, donc de Kabylie, et elle a un conte à te raconter. Je vais rencontrer cette jeune femme, et elle parle aussi bien le français que l'arabe, que le berbère, que le kabyle. Et cette femme va me raconter le conte que je cherchais, la dot de la princesse. Et là, je suis stupéfaite. J'ai dit, je le cherchais, ben voilà, j'ai une version qui arrive. Et le soir même, je rencontre une autre femme qui va me le raconter en arabe sans que je le lui demande. Dans la journée, je l'ai eu deux fois, donc je l'ai eu dans l'oralité.
Et la troisième fois, elle est écrite et vous nous la contez.
Et la troisième fois est écrite et je vous la raconte. Et j'ai pris la version, bien sûr, kabyle. La dot de la princesse. Dans ce pays, le sultan choyait sa fille plus que de mesure. Il la gâtait et interdisait à quiconque de la laisser effectuer une tâche ménagère aussi minime fut-elle. La sultane, la mère, une femme avertie, tentait de protester en arguant qu'apprendre à utiliser ses mains est primordial. Mais le sultan répondait « Nul besoin de faire travailler ma fille adorée. Lorsqu'elle se mariera, je mettrai à sa disposition des servantes et autant de richesses qu'il faudra. Elle ne manquera jamais de rien. Même une simple mouche ne doit pas se poser sur ma fille chérie. » Face à l'entêtement du sultan, la mère convainquit la princesse d'apprendre tout ce qui était nécessaire à une femme accomplie. Dès que le sultan s'absentait, elle la mettait au fourneau, devant le métier à tisser, dans l'atelier de poterie, et face à tout ce qu'elle avait elle-même, appris de sa mère. Aucune besogne ne fut épargnée à la princesse. Le temps passa et la princesse fut mariée à un homme noble, mais sans grande fortune. Son père mit à sa disposition du personnel et des coffres d'or, une dot considérable, comme il l'avait promis. Les premières années se déroulèrent dans l'opulence, puis le mari tomba malade. La princesse sortit alors ses coffres d'or et épuisa ce dont elle avait besoin pour continuer son train de vie. Ainsi, jour après jour, toutes les richesses du père s'épuisèrent. Même les servantes refusèrent de continuer à travailler dans une maison dépourvue de biens. Par ailleurs, il n'y avait plus de quoi les nourrir, et elles désertèrent les lieux. La princesse se souvint alors de ce que sa mère lui avait appris. Elle retroussa ses manches et se mit au travail. Elle réalisa des merveilles. Tissage, couture, broderie, poterie, jardinage et cuisine. Ses mains étaient désormais la source de ses revenus. Un jour, se présenta un messager de son père qui lui dit « Le sultan vous demande, est-ce que le couscoussier sur le feu dégage toujours sa vapeur ? Ta vie est-elle toujours prospère ?» La princesse répondit « Dites au sultan ceci, ce que j'ai reçu de mon père est épuisé, ce que j'ai reçu de ma mère est à présent utilisé. » Lorsque le sultan prit connaissance du message de sa fille, il fit des reproches à sa femme. « Comment as-tu osé donner des biens à ma fille sans me consulter. Tu as agi à mon insu pour me défier. À combien s'élève ta dot ? La reine lui répondit calme et sereine. Laisse-moi t'expliquer ce que j'ai offert à notre fille et qui lui sert à présent. À l'époque où tu refusais de la voir s'adonner à la moindre activité, moi j'ai exigé d'elle qu'elle apprenne à travailler. Elle est partie avec dans les mains un grand savoir-faire. C'est là que réside ma dot. De cette histoire demeure un proverbe kabyle qui dit « S'épuise ce qui vient du père et perdure ce qui vient de la mère ».
Merci Nora Asval pour cette belle lecture encore extraite d'un texte extrait de votre livre « Sagesse des femmes du Maghreb » qui vient de paraître aux éditions Almanach. On va vous retrouver dans un instant pour la dernière partie de notre émission ce dimanche matin.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Nora Asval et nous parlons de sagesse des femmes du Maghreb. Son livre vient de paraître aux éditions Almanach. On a eu le plaisir d'entendre en direct Nora Asval dans deux contes. Et moi, je voudrais revenir, si vous le voulez bien, Nora Asval, sur ce collectage que vous faites. Alors, il est dans la tradition, c'est des femmes ou des hommes anciens qui vous racontent des contes où vous avez vu au cours de vos déplacements en Algérie, au Maghreb en général, de rencontrer des nouvelles générations, entre guillemets, comme on dit, qui vous racontent les contes qu'elles ont, qu'elles auraient entendus, elles, des plus anciennes, des grands-mères, des mères et des grands-mères. Tout ça pour essayer de nous dire, si vous le voulez bien, comment cette oralité continue de se transmettre. Peut-être qu'elle se transmet aussi dans l'immigration, d'ailleurs.
Parce qu'on oui, peut beaucoup aussi dans l'immigration.
Bien sûr.
J'ai beaucoup
donc voilà,
collecté.
Cette transmission, oui. Comment oui. Ce collectage et cette transmission, comment ça s'opère ?
Personnellement, moi, quand je vais en Algérie, je collecte auprès des anciens, ceux qui détiennent encore un répertoire, et afin de les sauver de l'oubli. Je vais au plus urgent. Mais vous avez raison, j'ai beaucoup collecté en France, dans les milieux immigrés. D'ailleurs, il y a même un livre qui est sorti, que j'ai fait avec Bernard Zimmermann, chez les Chibani, chez les anciens, les vieux qui vivaient dans un foyer. C'est Parole immigrée, ça s'appelle Parole immigrée aux éditions L'Harmattan. Donc, et en dehors de ça, dans les associations, j'ai beaucoup travaillé avec le milieu associatif. Et dans les associations, j'ai rencontré des femmes qui venaient de tout le Maghreb et même d'Afrique, auprès desquelles j'ai collecté, même d'Inde. J'ai des comptes hindous. J'ai beaucoup collecté dans les associations. Et souvent, ce sont toujours ce que j'ai collecté. Du moins, ce sont toujours des comptes qui viennent de bouche à oreille. Quand ce sont des gens qui ont pris des comptes dans un livre et qui me le racontent, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais c'est intéressant aussi de voir comment un conte qui sort d'un livre, comment il est raconté. C'est aussi intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Mais moi, j'aime beaucoup les contes vraiment traditionnels. Et au milieu immigré, il y en a beaucoup. Ouais.
Et au Maghreb, en Algérie, quand vous y alliez, c'était des aînés que vous avez enregistrés, qui vous avez écouté, raconté leurs contes.
Je cherche les anciens. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a des personnes de ma famille, des assistants. Il y a ma cousine Fatmi Khaira, il y a ma sœur Fatmi Fadila qui m'ont beaucoup aidée et qui Fatmi Khaira était mon assistante. Elle venait m'assister. J'ai fait avec les moyens du bord parce que je n'ai jamais bénéficié d'aucune subvention. Je fais ça par passion avec mes propres deniers. Et donc on repère une vieille dame qui est porteuse de mémoire, etc. Et je vais la voir. Je reste avec elle, je discute avec elle. Et là, j'arrive à savoir, avec le temps, maintenant, je suis habituée, si elle est porteuse de mémoire ou si elle est porteuse juste d'un ou deux contes. Quoi qu'il en soit, je le collecte.
Et cette vieille dame, qui, hélas, la vie est ainsi, oui, ne sera plus dans quelques années, si elle est très âgée. Oui. Est-ce qu'elle a transmis et vous avez entendu cette transmission? C'était ça plutôt que je voulais percevoir avec vous.
Souvent, quand je collecte, je dis qui vous a raconté l'histoire. Et même si ce n'est pas une vieille dame, souvent elle me dit cette histoire vient de ma mère.
Et de quand est-ce qu'elle a été racontée? C'est important
et
aussi.
Et vous savez, le conte que je viens de vous lire, la dot de la princesse, la femme, elle est jeune, elle a fait des études, elle est ingénieure. Et justement, quand je lui ai parlé des contes, le premier conte qui est sorti, c'est celui-ci.
Est-ce qu'elle l'avait entendu?
Ben parce que sa mère lui racontait encore plus. Il lui servait d'exemple. Elle me l'a raconté comme exemple. Elle m'a dit, vous savez, moi, j'ai fait des études. Et maintenant que je ne peux pas travailler parce qu'il faut aller dans une ville lointaine, que j'ai des enfants, heureusement que ma mère m'a appris à travailler. Donc, elle avait une boutique, elle faisait de la couture. Donc, elle parlait d'elle-même. Mmh. Comment sa mère lui a appris à travailler, pas seulement à faire des études. Voilà. Donc, il y a des jeunes femmes, bien évidemment, qui détiennent des contes qui viennent de leur maman et que je collecte quand je les rencontre et quand elles ont le temps. Les jeunes femmes ont moins le temps, les vieilles grand-mères.
La modernité,
c'est... Les vieilles grand-mères ont plus le temps. Elles vivent en famille, elles sont plus disponibles. Et même, j'ai collecté, par exemple, une vieille dame pendant 20 ans, l'Hajja Zahra, Allah yirhamha, paix à son âme. Et maintenant, je vois sa petite fille. Et de temps en temps, elle me dit un conte. Elle n'a pas la mémoire de sa grand-mère, mais il lui reste des bribes de contes des fois. Mais cette petite fille, je l'ai côtoyée elle aussi pendant 20 ans. Et quand je la revois maintenant, en souvenir de l'Hajja Zahra qui nous a quittés il y a 2 ans, elle aime bien me dire un conte ou une devinette ou un proverbe, une anecdote, etc.
Vous parliez tout à l'heure de l'oralité à l'écriture, que vous aviez une fidélité au conte qui vous était raconté, si vous le pouvez, bien sûr. Mais il n'y a pas une réécriture, une adaptation. Vous ne choisissez pas ce...
Personnellement, je n'aime pas adapter les contes. Mais ils s'adaptent. Vous savez, quand on les traduit, ils sont déjà adaptés. Oh. Mais je ne veux pas changer des motifs, par exemple, pour faire plus joli. J'aime beaucoup le traditionnel, donc je reste dans le traditionnel. Même si parfois j'ai des idées, je me dis « Ah, mais ça aurait dû se faire de cette manière », je ne le fais pas. Je respecte un maximum la parole entendue.
On va entendre le troisième texte que vous avez choisi. Vous en avez parlé un petit peu quand on a abordé tout à l'heure le religieux dans ses contes, dans les contes. Mmh. Et
C'est l'aube triomphe du nombre.
Voilà.
Oui.
Vous nous en avez parlé, mais vous allez le lire si vous le voulez bien. Et ensuite, on va essayer de comprendre ce qui se dit au travers, au travers ce très court texte. Parce que
très court.
Très court. Il est... conte.
Oui, c'est un petit récit édifiant. Ouais. Une femme, dépassée par ses nombreux enfants en bas âge, n'avait pas assez d'une journée pour accomplir toutes les tâches qui incombent à une mère de famille. Épuisée, découragée, en sanglots, elle se plaignit à sa mère. « Ils m'ont vaincue par leur nombre !» Et la mère rétorqua « L'aube triomphe du nombre !» En arabe, ça donne ceci « Ralbouni kusra, aghalbihum bukra !» Et depuis, cette jeune femme s'organisa autrement. En se levant tôt, maîtresse de sa journée, elle réalisait toutes ses tâches domestiques et trouvait même du temps pour elle. Prière du prophète. Puisse Dieu, dans la brise matinale, déposer la baraka à ma communauté.
Donc, on est là dans la sagesse et on est là dans le religieux. Donc,
parce que le religieux, c'est notre coutume, c'est nos coutumes. Et nos coutumes, c'est aussi un apprentissage. Nos coutumes nous disent que se lever tôt porte bonheur. Se lever tôt...
C'est la sérénité aussi.
C'est la sérénité. Donc, on se lève tôt. Cette femme, « Ralbouni kufra ralbihum bukra », et s'ils sont nombreux et que tu ne peux pas t'en sortir, lève-toi très tôt. Et pendant qu'ils dorment, tu vas travailler, avancer ton travail. Et se lever à l'aube et se lever tôt, la journée est longue. Ça. Tous les gens qui travaillent beaucoup le savent.
Et elle en était satisfaite de ça,
qu'on lui ait
dit ça,
oui,
cette femme.
Elle a été soulagée parce qu'elle a, non seulement elle pouvait s'occuper de toute sa maison, mais elle pouvait s'occuper d'elle-même. Et ses enfants n'étaient plus un problème, ils étaient nombreux, mais elle arrivait à s'en sortir. Elle a triomphé.
J'allais dire, je vais refermer votre livre avec tous ces contes. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. On va pas pouvoir tous les lire, oui. Mais on invite vraiment les auditeurs, les auditrices à les lire parce qu'ils sont très dans la modernité en même temps. Est-ce que le conte est et voilà, il est universel, vous l'avez dit, oui. C'est sûr. Mais en même temps, voilà, ça.
Oui, ce dernier conte, par exemple, ben voilà, ce dernier conte, je l'ai vu sur TikTok. Une jeune femme, professeure, a dit, mon TikTok, je suis tombée dessus. J'ai lu le livre de Nora Asseval. Je voulais quand même préciser que c'est édité en France. Hein. Oui. Almanach, c'est à
oui,
Paris.
Bien
hein,
sûr.
Almanach. Et cette femme disait, j'ai lu, et elle a lu justement ce conte de l'aube triomphe du nombre. Et elle disait qu'elle était en train de surveiller ses élèves qui passaient le BTS blanc. Et qu'elle l'a lu et qu'elle a trouvé enfin une solution, que pour elle c'était une solution pour faire tout ce qu'elle avait à faire.
Voilà. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Nora, on a encore deux petites minutes, et puis le temps est important pour placer des mots. Il y en a beaucoup dans les tiroirs des contes, dans des enregistrements.
Oui.
Donc, il y en aura un prochain.
Oui, ben, je pense. Oui.
Avec un classement, entre guillemets, là, c'est sagesse, il y avait les contes d'Algérie, vous avez là un autre projet qui est en...
J'ai publié tous les répertoires, parce que nous avons aussi bien les contes merveilleux, que les contes d'animaux, que les contes grivois, que les contes...
Moi, les contes érotiques aussi.
Ils ne sont pas érotiques, c'est des contes libertins.
Ça s'appelle Libertin.
Et c'est différent. Et j'ai voulu les publier, ces contes libertins, qui sont le contraire de la sagesse. C'est l'opposé de la sagesse des femmes, mais en même temps, ça montre aussi le pouvoir des femmes. Ils sont plus féministes, qui protestent et qui disent à travers ces contes, ce n'est pas parce que tu m'enfermes que je te suis fidèle. Je suis fidèle parce que je le veux bien. Et en cela, c'est moderne et riche. Et là, j'ai publié donc les contes soufis il y a 2 ans. J'ai publié Jézié et Vieb, qui m'a pris 22 ans de travail, l'épopée arabe ilalienne, enfin la version algérienne de cette épopée, et qui met en avant une femme nomade et son pouvoir, sa beauté et surtout son intelligence.
Vous avez compté pour nous ce dimanche matin, Nora Asseval, et je vous en remercie. Mais vous comptez aussi, vous donnez des spectacles. Vous allez en donner un prochainement ou vous suivre.
Le dernier que j'ai donné, c'était à l'Institut du Monde Arabe. Et je les remercie parce qu'ils ont donné la parole justement à Jézié la Ilalienne, à cette épopée nomade. Et j'espère que d'autres vont suivre.
Eh ben je vous le souhaite en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci infiniment, Nora Asseval, d'être venue ce dimanche matin.
Merci à vous.
À Beurre FM, Sagesse des femmes du Maghreb, c'est le titre de votre livre, il vient de paraître aux éditions Almanach.
Avec
vous avez
une
raison.
Belle préface de Nadine Decour, l'anthropologue, j'ai oublié de le dire, c'est important.
Oui, c'est vrai qu'il y a une très très belle et intelligente préface de Nadine Decour, qui est anthropologue
et spécialiste des contes.
Merci beaucoup d'être venu ce dimanche matin. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.